Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le mardi 11 mars, on est un petit peu en retard, mais on est là en direct depuis les ondes de Radio Escapade. Et bah du coup, on fait pas de sommaire, on attaque direct avec quelques petites brèves d'outre-Atlantique et les nouvelles bonnes ou mauvaises selon ce que vous en penserez concernant le fameux duo Trump et Musk. Ça peut toujours régaler un petit peu de commencer la semaine comme ça. Deux pépins énormes hier pour l'empire de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui dirige les USA avec Donald Trump. Tout d'abord, des Cybertrucks de l'entreprise Tesla sont partis en fumée, notamment à Seattle. Un incendie a en effet embrasé quatre de ces espèces de méga-tanks pick-up brillants Cybertrucks sur un parking dans la nuit de dimanche à lundi. Une action directe hein, qui a eu lieu quelques jours après que des coups de feu aient aussi été tirés contre une concession Tesla dans l'Oregon, ou que des cocktails Molotov aient été lancés sur des véhicules à Denver. Donc autour du monde, et plus particulièrement aux États-Unis d'Amérique, des dizaines d'actions visant la firme Tesla et ses véhicules pour s'opposer à la politique mise en place par son PDG. Il y a par exemple eu un appel à manifester au niveau des États-Unis ce 8 mars, un peu partout. Une centaine d'actions ont été menées, comme par exemple à Decatur, dans la banlieue d'Atlanta, contre les pouvoirs politiques d'Elon Musk et ses licenciements et ses coupes budgétaires dans l'administration états-unienne. Une centaine de personnes étaient réunies ainsi devant le concessionnaire Tesla de cette petite ville. Ils ont hué les clients et les personnels en leur faisant même quelques saluts nazis de second degré, bien évidemment. Beaucoup d'initiatives citoyennes donc aux États-Unis se multiplient ces derniers jours dans l'ensemble du pays. Une centaine donc organisée ce 8 mars pour toute une semaine d'action selon le site Action Network. La grande partie de ces rassemblements reste pacifique, mais vous l'aurez compris, des actions violentes ont aussi lieu, avec notamment, comme j'en parlais, des cocktails Molotov ou des tirs d'armes à feu contre des boutiques, puisque là-bas tout le monde est armé. Le 8 mars, en tout cas à New York, 6 personnes ont été arrêtées suite à une intrusion dans l'intérieur d'une boutique. Et en France, du côté de Toulouse, chez nous, des personnes se réclamant d'un collectif anarchiste ont aussi incendié une douzaine de ces véhicules garés dans le parking d'une concession Tesla. On peut aussi parler d'une cyberattaque contre le réseau Twitter, qu'on appelle maintenant X. Une cyberattaque a priori en soutien à la cause palestinienne. C'est hier aussi que des millions de personnes n'ont pas réussi à se connecter à X. Des pics de perturbations ont été constatés entre 11h du matin et 19h, une des plus grosses attaques jamais et grosses pannes jamais vécues par ce réseau social. En début de soirée, le fonctionnement de la plateforme revenait progressivement à la normale hier, suite à 3 pannes massives. Il y a eu une cyberattaque massive contre X, nous sommes attaqués tous les jours, mais cela a été fait avec beaucoup de ressources. Soit un groupe important est coordonné, soit un pays est impliqué. C'est ce que postait Musk sur son réseau dans la journée. Il semble essayer d'impliquer peut-être l'Ukraine, sous-entend en tout cas que l'Ukraine serait jouée, mais les experts penchent plutôt, notamment pour un groupe de hackers qui s'appelle Dark Storm Team, l'équipe Dark Storm, donc tempête sombre, tempête noire, puisque celui-ci a revendiqué la responsabilité de l'attaque par un déni de service distribué DDoS, c'est le nom de la technique utilisée. Cette équipe Dark Storm Team est connue pour ses piratages réussis de systèmes de haute sécurité. Il a été créé en 2023 et justement, il défend la cause palestinienne. Il avait d'ailleurs promis le mois dernier dans un message de déclencher une vague de cyberattaques sur les sites web gouvernementaux des pays de l'OTAN, d'Israël et des pays qui soutiennent Israël. Et X, le réseau social, en fait naturellement partie. C'est donc une des plus grosses pannes de l'histoire de ce réseau social. Et enfin, la bourse. Ça ne va toujours pas. La bourse de New York a connu encore une très forte baisse hier, dans un contexte donc d'incertitude sur l'économie des États-Unis et des provocations géopolitiques de Donald Trump, notamment à l'égard du Mexique et du Canada voisins. Les investisseurs craignent toujours une récession économique. Dans ce contexte, par exemple, le cours de l'entreprise Tesla a encore chuté de 15% à la bourse de New York, ce qui faisait, rien que pour le lundi, 130 milliards de dévissements, de pertes financières. C'est sa plus mauvaise séance sur tous les marchés financiers depuis 2020. Et c'est dans ce contexte que le président des États-Unis, Donald Trump, appelle ses soutiens à venir à la rescousse d'Elon Musk, en déclarant notamment qu'il allait s'acheter pour lui-même une Tesla toute neuve, puisqu'il appelle les gens à ne pas faire ce boycott qu'il juge illégal de l'entreprise bébé de son conseiller Elon Musk, fragilisé en bourse sur fond de critiques et d'attaques lancées par les opposants au président américain. Aux républicains, aux conservateurs et à tous les formidables américains, Elon Musk monte au front pour aider notre nation et il fait un travail fantastique. C'est tout ce qu'a trouvé à dire Trump sur son réseau Truth Social. Dans la mer du Nord, un pétrolier et un cargo sont entrés en collision dans la matinée de ce lundi 10 mars, hier, selon les informations de la BBC, avec des images diffusées par ce média qui montrent le pétrolier en flammes sur la mer. L'accident a eu lieu au large des côtes du Yorkshire de l'Est. On est dans le nord-est de l'Angleterre. L'alarme a été donnée peu avant 11h, heure française, selon un communiqué des gardes-côtes britanniques, qui explique qu'un hélicoptère de sauvetage des gardes-côtes a été mobilisé, ainsi que des canots de sauvetage, un avion et des navires situés à proximité capables de lutter contre les incendies. Les deux navires qui sont impliqués dans cette collision seraient donc en feu, selon la Royal National Lifeboat Institution. Le pétrolier, ce serait un tanker états-unien, justement, nommé le MV Stena Immaculate, qui porte mal son nom aujourd'hui. Et le cargo, lui, serait le navire So Long, qui bat le pavillon portugais. L'accident a fait au moins 32 blessés, mais aucun mort n'est à déplorer, d'après les autorités du port de Grimsby, qui est à côté du lieu de la collision et qui a accueilli les victimes. L'entreprise Crowley, qui est celle qui exploite le navire américain, a assuré à l'AFP que l'ensemble de l'équipage était en vie, mais qu'un réservoir contenant du kérosène avait été brisé. Il y a des signalements selon lesquels les hydrocarbures s'échappent, reconnaissait l'entreprise. Dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures ou d'une perte de cargaison dangereuse du porte-container, la rapidité de l'intervention sera également cruciale pour limiter l'impact, prévenait l'ONG Greenpeace dans son communiqué qui attendait de connaître l'ampleur de la fuite. Le pétrolier était au mouillage au moment de la collision et il a été percuté par le porte-container So Long, d'après l'entreprise. Et l'entreprise allemande Reederei Kupin, qui possède, elle, le navire So Long, ne s'est pour l'instant pas exprimée.
Allez, rembolle tout ça, mais c'était que avant la fin.
Les suites de l'affaire de l'A69 en France, par la voix du ministre des Transports, le gouvernement annonçait vendredi dernier avoir demandé un sursis à exécution, ce qui permettrait donc au chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres de reprendre dans l'attente d'une procédure d'appel. Alors que le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé cette autorisation environnementale pour l'autoroute et que ses opposants donc s'en réjouissaient, le gouvernement, lui, s'obstine et signe. Interrogé sur Sud Radio, Philippe Tabarot, donc le ministre des Transports, se disait déterminé à mener ce projet à bien. L'appel, disait-il, sera déposé dans les jours qui viennent. On travaille sur un mémoire pour faire appel et surtout pour demander un sursis à exécution. Pour lui, l'arrêt du chantier provoquerait une catastrophe concrète et immédiate sur un plan économique. Ce n'est pas le premier membre du gouvernement d'ailleurs à prendre cette position, puisqu'il y a une semaine, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, affirmait elle aussi que l'État ferait appel, en ajoutant soutenir cet appel et chercher à défendre l'idée que le projet est un projet d'importance majeure. Tout projet humain a un impact sur l'environnement, dit-elle. Dans un article récent, le média écologiste Reporter décrivait l'offensive inédite justement, conjointe de tous ces politiques avec la presse qui relaye leurs opinions, notamment la presse comme la presse locale et les milieux économiques aussi, avec notamment le groupe Pierre Fabre, tous militants pour la reprise du chantier. Ce d'ailleurs faisant fi donc de la décision de justice et usant d'arguments mensongers et de désinformation, ainsi que vous propose d'ailleurs d'aller le vérifier, le journal Reporter, qui a fait un article spécialement là-dessus. Pendant ce temps, en tout cas, après l'annulation donc, de la 69 pour l'instant par la justice, les travaux désertés de toute machine laissent des paysages ravagés. Les habitants et fermiers expropriés de leur maison ou de leurs terres agricoles sont amers face au gâchis qui sera long à réparer. Si on l'espère, il est réparé un jour. Puisque pour l'instant, c'est une énorme bande de terre qui a été surtout arasée et des ouvrages construits. Un pas de goudron toujours n'a été versé sur ce tracé. En tout cas, parmi les 820 personnes expropriées pour laisser place à cette autoroute, une centaine sont des agriculteurs avec des exploitations maintenant traversées par un chantier ou complètement défigurées. Certains ont été expropriés de leur domicile, comme Alexandra, qui était la dernière habitante de ce qu'a été la ZAD du Verger. Elle se dit désormais prête à aller en justice en menant une action collective face à un chantier illégal donc, qui leur a causé de nombreux préjudices. Celle-ci, par exemple, conserve de nombreuses séquelles psychiques de cet épisode où elle a été contrainte d'abandonner son logement. On part en Guadeloupe et Martinique, enfin à Paris, mais on va parler beaucoup de la Guadeloupe et de la Martinique, puisque c'est aujourd'hui que le sort des demandes d'indemnisation de 1286 plaignants va être étudié. Des plaignants explosés au chlordécone. C'est la cour d'administratif d'appel de Paris qui se prononce aujourd'hui. Après 2 ans de lutte, donc les victimes du chlordécone espèrent faire plier l'État français. Les victimes de ce pesticide nocif pour la santé, mais qui a été maintenu en Guadeloupe et en Martinique par un État français prêt à détourner le regard par appât du gain, espèrent obtenir une indemnité de 15 000 euros chacun, c'est pas lourd, pour préjudice d'anxiété. Et surtout, ils espèrent que le gouvernement ainsi assume officiellement sa responsabilité. On rappelle que de 1972 à 1993, l'État français a autorisé l'empoisonnement de la Martinique et de la Guadeloupe avec le chlordécone, un pesticide utilisé massivement dans les bananeraies qui permet de combattre le charançon, un insecte ravageur. Ce chlordécone a contaminé des milliers d'hectares de terres agricoles et empoisonné les populations locales, le tout donc par dérogation ministérielle. Alors que ce pesticide provoquait une pollution importante et durable des sols, des nappes phréatiques et des milieux marins, il avait quand même été interdit en France métropolitaine dès 1990. L'État doit donc faire face à ses responsabilités aujourd'hui, alors que la Cour administrative d'appel de Paris doit se prononcer à propos donc du recours qui a été fait par les plaignants sur les demandes d'indemnisation. Ils sont donc, je vous le disais, presque 1300 personnes, ainsi que 3 associations, qui dénoncent donc leur exposition au chlordécone. L'affaire avait fini par se retrouver sur le devant de la scène quand le tribunal administratif avait justement reconnu en juin 2022 les négligences fautives des services de la France, mais les demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété, elles, avaient été rejetées, faute de preuves visiblement, d'où la procédure en appel des plaignants. Les avocats donc de ces requérants demandent que soit reconnu aussi le préjudice moral, qui est lui plus facile à obtenir et dont les conditions d'indemnisation sont plus souples, selon Jérémy Bousquet, un des 2 avocats. On peut citer la perte massive des proches de cancer, notamment de la prostate, les déménagements avérés pour fuir cette contamination, la nécessité d'adapter son alimentation ou l'atteinte au droit à vivre dans un environnement sain. Tous ces éléments justifient notamment que soient reconnus ces 2 préjudices, celui à l'anxiété et le préjudice moral. En plus des risques de cancer de la prostate, l'exposition au chlordécone, qui est un perturbateur endocrinien, pourrait entraîner des troubles neurologiques et une prématurité des naissances. C'est ce qu'a souligné entre autres l'autre avocat des parties civiles. Et dit-il, ce n'est pas une cause d'angoisse ça. Il a demandé que ne soient pas oubliées non plus les ouvrières qui ont répandu du chlordécone à main nue dans les bananeraies pendant des années. En effet, au total, c'est plus de 90% de la population adulte de Guadeloupe et de Martinique qui est aujourd'hui contaminée par le chlordécone, selon les données de Santé publique France et un rapport de l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, qui date de 2023. Pour ce qui est des hommes, ils présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés du monde. La lutte contre les effets du chlordécone, à côté de tout ça, elle, se poursuit justement. C'est ce qu'explique Edwige Duclet, ingénieur agronome spécialisé dans la protection de la santé humaine face aux atteintes environnementales. Notre priorité reste la lutte contre l'exposition à ce pesticide pour toutes les personnes concernées aujourd'hui. Selon elle, si beaucoup de chemin a en effet été parcouru depuis le premier plan chlordécone qui date de 2008, l'heure n'en est pas encore à l'auto-satisfecit. Ce plan est doté de 130 millions d'euros sur 6 ans. C'était 92 millions pour le précédent. Et c'est donc le plan chlordécone c'est le quatrième. Il va courir de 2021 à 2027. Enfin, il est en train de courir. Il a déjà engagé 36 millions sur ce budget. Pour limiter ainsi l'exposition à ce pesticide, qui se fait principalement par l'alimentation, plusieurs dispositifs existent. Des analyses sanguines, des analyses de sol, tout ça gratuit. La prévention ciblée pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont un taux de contamination qui dépasse 0,4 microgrammes par litre de sang, qui est le seuil fixé par les autorités. On a aussi renforcé les contrôles des aliments et de l'eau potable et l'accompagnement des éleveurs et des pêcheurs, explique toujours la chercheuse à l'INRA. Le fonds d'indemnisation des victimes commence lui aussi à fonctionner avec 13 dossiers acceptés à la fin de ce mois de janvier, selon l'association de défense des victimes des pesticides qui s'intitule Phytovictimes. Mais les résultats restent quand même assez limités pour ce plan. Et la chercheuse explique qu'on constate que la colère, qui est compréhensible autour de ce sujet, est un frein aux actions de prévention. Les gens n'ont plus trop envie d'entendre parler de chlordécone, visiblement, et ainsi, ce sont moins de 5000 personnes qui ont pour l'instant effectué un test de chlordéconémie en Guadeloupe, et seulement 20 éleveurs qui ont rejoint le programme en 2024. Une condamnation de l'État aujourd'hui donc pourrait apparaître comme un fort symbole et un cap majeur à franchir, tant symboliquement que politiquement, qui permettrait peut-être à la population, de petit à petit tourner la page. Et c'est un article que j'ai lu, que j'ai piqué dans les colonnes du journal L'Humanité.
Des nouvelles du monde.
On part maintenant en Serbie avec le chaos qui s'intensifie dans la rue et la révolte étudiante qui continue d'embraser le pays. Il y a eu notamment des gaz lacrymogènes au Parlement, des manifestations dans les rues. La Serbie traverse bien une crise politique majeure. Mardi 4 mars dernier, en pleine session du Parlement serbe, des députés de l'opposition ont allumé des fusées éclairantes et des fumigènes de couleur rose et noire. Cela en soutien aux manifestations massives qui secouaient le pays depuis des mois. Je rappelle qu'à l'origine, ces manifestations et ces rassemblements ont démarré de manière assez calme pour réclamer de la justice face aux négligences et à la corruption qui auraient entraîné la chute d'un toit extérieur de la gare de Novi Sad, une ville dans le sud de la Serbie. 15 personnes sont mortes au cours de ce drame, quelques mois après que d'importants travaux de rénovation du bâtiment avaient été faits par des entreprises dont pour lesquelles aucun appel d'offres n'avait été lancé. Ça a donc fait boule de neige et c'est un petit peu révélateur du symptôme de ce que vit la Serbie et de nombreux autres pays voisins. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et en Serbie, ça fait donc de nombreuses semaines que des dizaines de milliers de personnes participent à des manifestations dont les appels sont en majorité lancés et relayés donc par les étudiants. Ils réclament notamment, pour l'affaire de la gare de Novi Sad, la publication des documents sur cet accident, l'abandon des poursuites contre les manifestants qui ont pu être arrêtés au cours des dernières semaines, mais aussi la hausse du budget de l'enseignement supérieur, et ils veulent l'inculpation des membres du parti au pouvoir. C'est le SNS, le parti progressiste serbe, à la tête duquel est le président Aleksandar Vučić. Je crois qu'on le dit comme ça. Après 3 mois donc, et afin de ne pas augmenter davantage les tensions dans la société, d'ailleurs le premier ministre Milos Vučević avait lui démissionné le 28 janvier dernier, un fusible qui n'est visiblement pas suffisant pour éteindre l'incendie en cours. D'ailleurs, Milos Vučević était aussi le maire de la ville Novi Sad au cours du début des travaux de la gare de la ville. Le calme est donc loin d'être redescendu en Serbie. La situation est loin d'être circonscrite à la simple revendication étudiante, puisque le président Vučić, au pouvoir depuis plus de 10 ans, lui de son côté oscille entre des appels à des négociations aux étudiants ou à des allégations selon laquelle la Serbie est confrontée à une tentative de révolution de couleur qui serait orchestrée par des agents étrangers de pays occidentaux. A noter d'ailleurs que le président a le soutien de Vladimir Poutine, qui lui aussi de son côté dénonce des ingérences extérieures. Vendredi 7 mars, les étudiants ont ainsi appelé une grève générale, c'était la première depuis fin janvier, avec ce mot d'ordre simple, n'achetez rien, n'allez pas travailler, rejoignez-nous dans la rue. Tout cela a mené d'ailleurs mardi dernier, 4 mars, donc à ce que les députés de l'opposition créent le chaos dans le Parlement serbe, je vous le disais, avec des fusées éclairantes et des gaz lacrymogènes. Les élus ont brandi des drapeaux serbes et des pancartes sur lesquelles étaient écrites « Vos mains sont ensanglantées » et répondaient aux demandes des étudiants. C'est la première fois donc que la rue fait trembler le pouvoir de la sorte, depuis en tout cas la mobilisation du tournant des années 90, qui avait à l'époque fait tomber Slobodan Milosevic. Des sources qui suivent le dossier de près expliquent qu'après l'énorme succès donc de cette grève générale du 7 mars, puis les manifestations de ce week-end des 8 et 9 mars, et l'appel à la nation des étudiants du 10 mars pour que le peuple constitue ses propres organes de pouvoir avec des assemblées de démocratie directe. Il se prépare donc peut-être la prise de Belgrade ce 15 mars, puisque des marches convergent de tout le pays. Les étudiants ont par ailleurs bloqué hier et cette nuit les deux principales télévisions RTS et RTV à Belgrade et dans la ville de Novi Sad, en empêchant les journalistes d'y accéder et, j'imagine, selon eux, de réaliser des journaux d'information à charge contre les manifestations. Dans les affrontements qui ont d'ailleurs suivi ces blocages, des gendarmes et des policiers se seraient même battus entre eux. Un policier a été gravement blessé dans les affrontements. Le président Vučić menace de son côté d'envoyer l'armée, mais beaucoup doutent que l'armée suive. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer que celui-ci, le président, a fait venir par camion des tracteurs pour bloquer les manifestants qui sont déjà en train de marcher sur Belgrade depuis différents points du pays. Il cherche à couper donc les axes en mettant ses tracteurs sur les routes d'accès et il espère peut-être ainsi que des paysans qui seraient partisans de son parti participent au blocage pour essayer de se redonner une légitimité populaire. Il appelle d'ailleurs la population à se mobiliser contre l'insurrection à partir du 21 mars et il organise une marche nationale qu'il espère gigantesque pour le 28 mars prochain. Mais vous l'aurez compris, la révolte court vite sur les routes et tout le pays pourrait bien être déjà à Belgrade dès ce 15 mars pour faire tomber le régime. Et ben, on suivra tout ça de très près. Et on revient à Paris avec l'école Sciences Po qui est fermée au moins jusqu'à demain à cause d'une grève de ses agents et agentes de nettoyage. Ça dure depuis le 6 mars. 77 agents de nettoyage donc de Sciences Po Paris sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, la CFDT, donc, le syndicat qui représente ces travailleuses du nettoyage, sera reçue par Atalian, qui est le prestataire en charge justement de la propreté à Sciences Po, puisqu'une fois de plus, ce sont des entreprises sous-traitantes.
Le nettoyage, ici, à Sciences Po, c'est de l'esclavage!
Avec le transport et tout ça, et malgré ça, on est là, malade, on est là, on est submergé du travail. Il y a des salariés qui font que 2h30 et ils ont 2 étages à faire, 18 toilettes à faire en 2h30. Et je trouve ça impossible.
Il y a surtout ça dans l'après-midi, c'est difficile. Beaucoup de poubelles.
Et toute seule ?
Je suis tout seul. Avant, il y avait 3 personnes, ils ont enlevé 2. C'est pas facile. Ça fait 20 ans.
Voilà, avec un petit extrait de reportage réalisé par Mediapart auquel j'ai emprunté le son. Ce sont donc 77 agents, agentes de nettoyage de l'école Sciences Po Paris qui sont en grève depuis jeudi dernier. Ils vont enfin pouvoir faire entendre leurs revendications aujourd'hui puisque la CFDT Propreté et un des grévistes seront reçus aujourd'hui au siège social de Atalian, le prestataire en charge du ménage. Aujourd'hui, donc, pour ce qui est des conditions de travail, chaque agent fait 2 heures de ménage par jour pour 515 euros net par mois. Ils doivent être là entre 6h et 8h du matin avant l'ouverture donc de l'école. Certains ont des revenus complémentaires, mais pour d'autres, il s'agit de la seule source de revenus, explique le syndicaliste Mohamed Anjar. Et vous vous doutez bien que les gens qui travaillent, les femmes qui travaillent au ménage de Sciences Po n'habitent pas dans Paris intramuros. Donc sur ce laps de temps de 2 heures, l'ensemble des parties communes de l'école doit être nettoyé. C'est une véritable course, affirme le syndicaliste. Et de son côté, le site de l'école Sciences Po, qui est situé rue Saint-Guillaume dans le 7e arrondissement de Paris, est fermé depuis samedi. Le restera au moins jusqu'à demain, selon la direction, puisqu'elle dénonce des dégradations qui auraient été causées vendredi dans le cadre de cette grève. La CFDT Propreté, d'ailleurs, qui est aux côtés de ses agents d'entretien, dément, elle, les allégations de Sciences Po, en expliquant qu'ils ont juste retiré le couvercle des poubelles pour faire du bruit avec, mais qu'il n'y a pas eu de dégradation ni d'intrusion. Selon lui, la direction de Sciences Po cherche tout simplement à casser la grève. Certains membres de la direction et des agents de sécurité ont eu des comportements irrespectueux vis-à-vis des grévistes. Ce mouvement de grève a été déclenché, en tout cas, par un appel d'offres de l'école Sciences Po, qui visait à trouver le prestataire suivant qui succéderait à l'entreprise Atalian. Atalian travaille sur le site depuis 3 ans et jusqu'au mois d'avril pour ce qui est du contrat en cours. Le risque, serait justement que ce changement de prestataire s'accompagne d'une réduction du nombre d'heures attribuées aux employés et d'une réduction des effectifs. Réduction qui ne serait donc pas les premières, vous l'avez entendu dans les paroles de ces travailleuses. Les employés, en tout cas, travaillent déjà dans des conditions proches de l'esclavage. C'est le mot que reprend le syndicaliste. On leur demande de faire toujours plus en étant de moins en moins nombreux. Nous sommes passés d'une centaine d'agents en 15 ans à 77. Cela implique donc des problèmes de santé, des blessures au travail pour les agents. Tout ça a fait fortement penser aux grèves des femmes de ménage des hôtels de luxe qui ont déjà eu lieu ces dernières années, hôtel Batignolles, hôtel Ibis en France, avec pour certaines des victoires à la clé. Et je terminerai justement en citant une série qui s'appelle Frottez, frottez. Les premiers épisodes sont diffusés sur France TV, une série apparemment très réussie qui va se bat aux côtés de ces femmes de ménage. On peut lire sur le site Bastamag, bastamag.net, un article qui dévoile justement les coulisses du tournage de cette série télé où le droit de grève, visiblement, a été allègrement piétiné pour les soucis d'une production en temps et en heure. Et c'est la boîte de production Ciné TV qui a produit cette série, diffusée donc sur France Télé, qui s'est elle-même livrée à un remplacement de travailleurs au cours d'une grève historique qui avait lieu au sein des techniciens de l'audiovisuel en 2023, qui a touché le tournage de cette série là-dessus. C'est plutôt ironique comme situation. En tout cas, de nombreux témoignages sont publiés dans les colonnes du site Bastamag, bastamag.net. Et quant à la série, Frottez, frottez, à ce qui paraît, elle est très réussie.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, c'est l'heure du café, les amis. On se quitte là-dessus. Restez au sec, au chaud. Et puis, on se donne des nouvelles très vite, jeudi, pour d'autres nouvelles du monde. Ciao, ciao.
Monsieur, des informations, il y en a plein. Par exemple, il y en a plein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas. Interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.